Radio Okapi.
À Kinshasa, bienvenue à tous dans cette édition d'information. Le secrétaire général des Nations Unies salue les avancées significatives dans la mise en œuvre du calendrier électoral en RDC. En même temps, Antonio Guterres déplore la répression violente de manifestations pacifiques. C'est ce qui ressort d'un rapport publié ce vendredi. Après tractation et contestation de miniers, le code minier révisé enfin promulgué ce vendredi dans la soirée. La satisfaction est totale dans le chef des ONG œuvrant dans ce secteur. La morgue de l'hôpital général de référence de Kamina n'est pas opérationnelle depuis bientôt un mois. Préoccupée, la société civile de Kamina lance un SOS aux autorités pour la réhabilitation. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le secrétaire général des Nations Unies salue les avancées réalisées dans la mise en œuvre du calendrier électoral. Antonio Guterres s'est ainsi exprimé ce vendredi 9 mars dans un rapport sur la RDC relayé par l'agence France Presse. Plus d'éclairage avec Paul Matendo.
Le secrétaire général de l'ONU trouve encourageant les progrès accomplis par la Commission électorale nationale indépendante en vue de l'achèvement des inscriptions sur les listes électorales. Antonio Guterres souligne dans ce rapport sur la RDC, je cite, « Je salue les mesures prises par le gouvernement pour mettre en place le cadre juridique requis pour la tenue des élections le 23 décembre 2018 en vue de la succession du président Joseph Kabila. » Fin de citation. Cependant, le patron des Nations Unies s'est dit préoccupé par la répression violente des manifestations pacifiques des 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018. Il demande au gouvernement d'assurer le respect des libertés fondamentales. Autre préoccupation d'Antonio Guterres, c'est l'absence d'un engagement constructif de la part de certains dirigeants de l'opposition au processus politique et électoral.
Toujours en politique, ouverture ce samedi à Johannesburg en République sud-africaine du conclave dit des forces politiques du changement regroupant les partis politiques membres de l'alternance pour la République et ceux du G7, deux plateformes de l'opposition politique de la RDC. Selon les organisateurs, ces assises de trois jours permettront aux participants venus de la RDC, de l'Europe, du Canada ainsi que de l'Afrique du Sud d'aborder des questions concernant les prochaines échéances électorales en RDC, le programme politique de l'opposition et leurs stratégies électorales ainsi que la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre dans toute son intégralité. Il convient de noter que ce conclave fait suite aux assises de l'opposition d'octobre 2017 dernier tenues en Belgique. Nous reviendrons avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions. La classe intellectuelle du Sud Kivu s'engage à être les lanceurs d'alerte sur tout ce qui constitue le mal dans la société. Un engagement pris hier vendredi à Bukavu à l'issue d'une conférence débat sur le rôle de l'intellectuel face au péril de la nation congolaise. Une conférence qui a connu la participation de plusieurs professeurs d'université venus de Kinshasa, Kisangani et de Goma. Emmanuel Elameji pour les détails.
La conférence du collège Alpha Diri de Bukavu était l'œuvre de l'université évangélique en Afrique et l'université catholique de Bukavu. Le premier à prendre la parole, c'est le professeur Dr Denis Mukwege, qui définit l'intellectuel comme un lanceur d'alerte, un citoyen qui éveille la conscience des autres.
Il y a encore des intellectuels qui croient dans leur pays, il y a des intellectuels qui croient à la vertu démocratique. C'est avec ces intellectuels qu'il faut travailler pour que l'information puisse aller dans toute la population.
Le professeur ordinaire André Mbata a insisté sur la responsabilité sociale de l'intellectuel dans une nation en péril. Pour Mbata, aucun intellectuel congolais ne peut prétendre rester neutre devant les abus dans sa société.
Notre présence ici à Bukavu, c'était pour traduire cette détermination de changement. Le Congo doit changer et les intellectuels doivent jouer leur rôle dans le changement démocratique qui doit se faire dans le pays.
Ainsi, des engagements ci-après ont été pris.
Les intellectuels s'engagent à multiplier les espaces et les réseaux d'échange sur le problème de la société, le valeur de la démocratie, de paix et de justice.
D'autres professeurs comme Alphonse Maïndo de Kisangani, Arnaud de Nyaluma de Bukavu, Jacques Njoli de Kinshasa et Kennedy Kihangi de Goma sont aussi intervenus dans cette conférence de Bukavu. Emmanuel Elamejoa Kadedi, Bukavu Radio Kapi.
Le président de la République, Joseph Kabila, a promulgué ce vendredi dans la soirée le code minier tel qu'adopté par les deux chambres du Parlement. Cela, après plusieurs tractations et contestations de la part des puissances minières. Cette promulgation est saluée par les ONG qui demandaient au chef de l'État de ne pas céder aux pressions des entreprises minières. Pour Georges Bokondo, manager de Ossissa, la promulgation de cette loi est une chose, son application en est une autre. Il est joint au téléphone par Suzanne Zobo.
La promulgation de la loi, c'est la première chose que nous attendions. Maintenant, il faut l'appliquer pour qu'on puisse effectivement voir la différence des retombées du code minier de 2002 et des retombées de la nouvelle loi promulguée. Et ça, c'est là où nous, en tant que société civile, nous allons regarder l'État, le gouvernement, comment il va mettre en pratique. Nous devons voir les changements, par exemple, à la fin de cette année, qu'est-ce que l'État a encaissé par rapport à la nouvelle législation. Si on ne les voit pas cette année, peut-être pour dire que non, c'est la première année, il faut voir la deuxième année. Nous voulons voir que ces recettes changent en 2019, par exemple, parce que nous attendions tous cela. Mais pour qu'il y ait changement, il faut que les services de l'État qui réglementent le secteur, les services percepteurs de cette taxe soient aussi justes et corrects et que l'État puisse mettre des mécanismes efficaces pour augmenter l'efficacité des services de l'État à recouvrer totalement les recettes ici à l'État. Si on a encore des faiblesses, on risque d'avoir les mêmes conséquences et on ne doit pas se plaindre.
Notez cependant qu'à la lecture de cette ordonnance à la Radio-Télévision nationale congolaise, le gouvernement réaffirme sa volonté de poursuivre les échanges avec les miniers qui sont, par ailleurs, des partenaires de la République démocratique du Congo. Dans la province de la Tchopo, le ministre provincial en charge de mines et environnement se dit déterminé de mettre fin à l'exploitation illicite et à grande échelle du bois et des ressources minières. Cyprien Eri Baraka l'a dit jeudi dernier au cours d'un point de presse et à l'issue de sa mission officielle dans les territoires de Bafoussende en février dernier, un constat amer a été fait dans ce secteur de mines et environnement. Un pillage systématique des richesses de la province de la Tchopo par des exploitants miniers et forestiers congolais ou étrangers sans se conformer à la législation congolaise en la matière. Cyprien Eri Baraka dresse un tableau sombre de ce qu'il a vu et décide donc de prendre le taureau par les cornes. On l'écoute au micro d'Aliana Alipanagama.
À l'issue du contrôle réalisé sur les cargaisons de bois d'œuvre, le constat a été déplorable, plus que amer. Dans le secteur des mines, les dragues ne sont pas enregistrées. Les tenanciers des dragues ne payent aucune taxe formelle. La présence des militaires et des policiers dans les foyers miniers, pas de renseignements sur les statistiques de production. Présence des étrangers dans l'exploitation artisanale, pratique odieuse de trafic de fiance autour des noms des autorités politiques, militaires, policières et d'autres services de sécurité du pays. En fait, la province de la Tchopo n'a pas droit de bénéficier de ces ressources naturelles. C'est pourquoi, comme responsable du secteur en province, nous avons pris nos responsabilités en main en suspendant toutes les activités illicites constatées sur terrain pour exiger aux exploitants concernés le respect des textes légaux et réglementaires avant toute reprise des activités.
Et d'après ce ministre que vous venez de suivre, cette situation déplorable est due à la faiblesse de l'administration provinciale du sommet à la base. Comme annoncé dans le titre, la morgue de l'hôpital général des références de Kamina dans le Olomami n'est pas opérationnelle depuis bientôt un mois. Les frigos mortuaires sont en panne. Comme conséquence, tous ceux qui meurent dans cette structure médicale sont enterrés le même jour. Information confirmée par le médecin directeur de cette institution hospitalière. La société civile de Kamina, qui s'est dit préoccupée par cette situation, lance un SOS aux autorités pour la réhabilitation de ces frigos mortuaires. On écoute Moulunda Betsael, membre de la société civile, joint au téléphone par Jean Gandou.
La morgue est constituée de deux frigos mortuaires. Le premier, ayant 6 tiroirs avec un seul moteur, est tombé en panne il y a de cela 2 ans. Maintenant, nous étions restés avec le deuxième frigo mortuaire qui avait avec lui 4 tiroirs. Et le 4 tiroirs, chacun avec un moteur. Les moteurs ont commencé à tomber en panne un à un. Et les derniers tombés il y a de cela un mois. Maintenant, nous vivons les pires. Nous avons écrit aux autorités de la mairie, les autorités provinciales. Nous avons demandé à ce que cela soit réparé dans les brefs délais, sans succès. Voilà pourquoi nous sommes venus par la voie des ondes, espérant que peut-être cela pourrait résoudre quelque chose. Il y avait une autre mort de la clinique SNCC, qui malheureusement aussi est tombée en panne il y a de cela quelques temps déjà, avant que le dernier frigo tombe en panne. Voilà pourquoi la population n'a plus où recourir. Alors que la décomposition de tout mortel serait aussi dangereuse pour le contact direct avec la population.
À la mairie de Kamina, on indique que le gouvernement provincial s'organise pour trouver une solution à ce problème. Et c'est par ici que nous bouclons cette édition d'information. Il est exactement 12h passé des 10 minutes à Ingende, c'est dans la province de l'Équateur. Mimi Ngumba vous a présenté ce journal. Suzanne Zobo l'a coordonné, Ben Kabamba l'a supervisé et Polydor Basunga l'a mise en onde. Et vous l'avez suivi. Voilà pourquoi nous vous disons merci et on se retrouve à 13h.